RCF.
Le roi Louis XIV avait un frère, le duc d'Anjou, qui devint Philippe d'Orléans. Des liens très étroits ont lié les deux hommes tout au long de leur vie, que ce soit les intrigues, la vie à la cour, les mœurs de l'un ou le pouvoir absolu de l'autre. Rien ne put les éloigner vraiment, car si l'on en croit les sources, ils avaient l'un pour l'autre un attachement profond, malgré d'inévitables tensions ou altercations. Elisabetta Lourgaud, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur chez Perrin d'une biographie consacrée à celui qu'on appelait donc Monsieur, c'est-à-dire Philippe d'Orléans.
Oui.
Vous êtes chercheur à l'Université de Savoie, spécialiste de l'histoire religieuse et des pratiques religieuses, particulièrement entre la France et l'Italie et entre la France et l'État de Savoie. Et c'est donc par ce biais-là, disons,
oui,
que vous êtes arrivé à vous intéresser à Philippe d'Orléans.
Oui.
Pour quelles raisons? Comment est-ce qu'on peut établir un lien là?
Et oui, parce que justement, la fille de Philippe d'Orléans, Anne-Marie d'Orléans, épouse le duc Victor Amédée II de Savoie. Et donc, on a à Touraine un fond magnifique de lettres de Philippe d'Orléans, plus d'une centaine de lettres, totalement inconnues, inédites, que j'ai étudiées. Et puis, j'ai décidé d'écrire cette biographie parce que le personnage est en effet très attachant.
Il a laissé des traces écrites.
Oui.
Il y a de nombreuses sources qui permettent de dresser un portrait de Philippe d'Orléans.
Oui, donc les lettres de Philippe d'Orléans, sa correspondance privée, en effet, n'est pas très nombreuse par rapport, par exemple, à la correspondance de Louis XIV. Mais quand même, on peut tracer un profil biographique à travers sa correspondance, oui.
Il y a énormément de choses à dire.
Oui.
En commençant par l'enfance,
oui,
celui qui va devenir Louis XIV, Dieudonné, et son frère, le duc d'Anjou, sont deux enfants totalement inespérés.
Oui, disons que la vie de Philippe d'Orléans, de Philippe d'Anjou, parce qu'il naît avec le titre de duc d'Anjou, commence par un miracle. Leur naissance est un miracle, parce que après 22 ans de stérilité, Louis XIII et Anne d'Autriche, enfin, ont ces deux garçons, Louis en 1638 et Philippe deux ans plus tard, qui sont les fils de France. Donc Louis XIII est
soulagé.
Soulagé, oui, oui, soulagé, c'est dire peu. C'est bon, et il est dans les nuages parce que enfin, son sang n'ira pas perdu. Deux garçons, ça signifie la stabilité de la dynastie. Et surtout, cela signifie, et ça c'est très important, son frère Gaston d'Orléans n'est plus l'héritier de la couronne parce qu'il y a cette relation très difficile, dramatique
entre
Louis XIII et Gaston d'Orléans. Et Gaston d'Orléans, avant la naissance de Louis et de Philippe, était l'héritier de la couronne. Donc Louis XIII est soulagé de ne plus voir son frère héritier de la couronne parce qu'il est obsédé par la haine et la jalousie vis-à-vis de son frère.
La suite de l'histoire.
Alors ces deux garçons connaîtront assez peu leur père, qui va mourir lorsqu'ils sont encore enfants.
En 43, oui.
Et ils nouent une relation très très forte avec leur mère, Anne d'Autriche, qui a un instinct maternel assez remarquable.
Mm-hmm.
Je ne sais pas s'il est remarquable pour l'époque, mais en tout cas...
Oui, très remarquable, surtout pour l'époque.
Elle mange avec eux, elle est très très présente.
Elle s'inquiète du sévrage de ses enfants. Oui, il y a, dans l'enfance de Philippe d'Orléans, il y a l'absence du père. Il meurt subitement en 1643. Il avait très peu connu ses enfants, et il les rencontrait très peu. Et donc, les deux frères nouent cet lien très fort, viscéral, avec leur mère. Et Anne d'Autriche s'occupe personnellement de leur éducation. À partir du sevrage des enfants, il s'occupe personnellement du sevrage des enfants, qui n'était pas du tout l'habitude de l'époque. Parce que normalement, il y avait...
Ils sont confiés.
Oui, ils sont confiés. Ils ont une gouvernante, une sous-gouvernante, des femmes de chambre, etc. Mais Anne d'Autriche est toujours là. Elle mange avec eux, elle se promène avec eux.
Vous notez dans l'ouvrage que les deux enfants jouent ensemble. Ils jouent beaucoup. Très tôt, ils sont très complices.
Oui. Anne d'Autriche, de ce point de vue-là, est admirable parce qu'elle a su vivre avec dignité aux côtés d'un époux qui était maladif, qui était dépressif, obsédé par les complots. Il était écrasé par le cardinal de Richelieu, qui était son premier ministre. Il était ballotté entre ses maîtresses et ses favoris, et donc il y avait toute une série de problèmes. Et il a souhaité être une épouse, une reine digne de sa place, de sa dignité. En même temps, il a souhaité être une régente très habile, avec l'aide, bien sûr, de cardinal Mazarin. Et surtout, il a souhaité être une mère.
Elle favorise les jeux, elle laisse jouer ses enfants.
Oui, et surtout, elle favorise la formation de ce lien fraternel qui ne se démentira jamais dans toute leur vie. Et c'est le mérite d'Anne d'Autriche qui a réussi à éviter cette tragédie de la jalousie qui avait empoisonné l'enfance et puis la vie adulte de Gaston d'Orléans et de Louis XIII.
Elisabetta Lourgaud, d'après l'abbé de Choisy, le petit monsieur, puisque c'est ainsi qu'on appelle Charles d'Orléans, pour le différencier
parce que, parce que son oncle, Gaston d'Orléans, qui est encore vivant et qui est le duc d'Orléans à l'époque, est monsieur.
Donc c'est le petit monsieur.
Oui.
Et la plus jolie créature de France. Manifestement, c'était un très très bel enfant.
Oui, oui, c'était un très bel enfant et surtout, il était très attachant. Au contraire de son frère, il rit beaucoup, il aime s'amuser avec les filles d'honneur de sa mère. À la cour, on l'aime beaucoup plus que son aîné, en effet.
Ça va aussi
se poursuivre, ça va continuer, parce
qu'il a un tempérament
affable.
Il
était affable, aimable. Oui.
Alors, il y a un épisode, évidemment, qu'on ne peut pas ne pas citer dans le parcours de ces deux jeunes garçons qui vont avoir un destin assez exceptionnel. C'est la fronde qui va constituer un véritable traumatisme dans leur enfance et qui va conditionner beaucoup de choses pour plus tard.
Oui, la fronde, c'est le véritable traumatisme de l'enfance de Louis et de Philippe. Oui, en effet, c'est une révolte qui commence par une révolte du Parlement et puis elle devient une révolte nobiliaire contre la politique de la régente d'Anne d'Autriche et de son ministre, le cardinal Mazarin, qui est italien et qui est accusé d'être
l'amant d'Anne d'Autriche.
Voilà. Et Anne d'Autriche aussi, c'est une princesse étrangère. N'oublions pas que c'est une Espagnole, donc cela aussi, c'est très important. Et oui, c'est le traumatisme de l'enfance parce que Louis XIV travaillera toute sa vie de roi à effacer le souvenir de sa révolte sacrilège, parce que c'est une révolte contre le roi, contre la politique royale.
Et une trahison.
Une trahison aussi au sein de sa même famille. Le prince de Condé et le prince de Conti, après lui, qui sont des princes de sang, de son cousin de Louis XIV, de Philippe, vont s'unir avec les révoltés. Et puis, enfin, Gaston d'Orléans, frère de Louis XIII, rejoint la fronde. Il y a des épisodes assez tragiques de cette révolte et qui nous montrent aussi la grande solidarité qui est entre Philippe, Louis et leur mère. Par exemple, il y a cette belle anecdote rapportée par le valet de chambre d'Anne d'Autriche. À un certain moment, il y a les barricades à Paris parce que le peuple de Paris a révolté contre Mazarin. Et révolté contre Mazarin, pas contre le roi. Et ce n'est pas la révolution. Hein. Il ne faut pas trop aller en avant avec le temps parce que ce n'est pas une révolution, parce qu'il n'est pas contre le roi, mais contre son ministre italien. Et il y a les barricades à Paris. On allume des feux au Palais Royal où sont réfugiés Anne d'Autriche et ses enfants. Et Philippe effrayé se réfugie dans les bras de son frère. Il y a cette scène assez touchante de Louis. Il a 10 ans, Philippe 8 ans, réconforte son frère lui disant les plus jolis mots du monde, rapporte dans l'anecdote le valet de chambre, entretenant cet enfant, le tenant auprès de lui. Donc il y a cette jolie scène d'un lien fraternel qui ne se démentira jamais.
Du lien fraternel et de la peur et du danger réel.
Oui, c'est un danger réel.
Où ils ont été exposés.
Oui, pas de mort parce qu'on ne songe pas à tuer le roi, bien évidemment. Mais oui, oui, c'est un danger réel et surtout le danger provient de sa propre famille, de la famille royale, parce que c'est Gaston d'Orléans qui fait cerner le palais royal pour éviter que Anne d'Autriche s'enfouille avec les enfants. Les révoltés entrent au palais royal pour s'assurer que les deux enfants, le petit roi et Philippe d'Anjou, soient toujours là. Et donc, on peut imaginer la peur qui saisit ces deux enfants parce que, oui, ils sont le roi et son frère, mais ils sont avant tout deux enfants qui ont peur.
On a déjà eu l'occasion d'insister, Elisabeth Alourgo, sur les liens très forts qui ont uni Louis XIV et son frère, le duc d'Anjou, qui va devenir Charles d'Orléans. Il faut peut-être Philippe d'Orléans. Il faut peut-être insister tout de suite aussi sur le fait qu'il n'y a jamais eu de véritable concurrence entre eux. Parce que
oui,
Philippe
ça.
D'Orléans oui. n'a jamais envisagé ou d'ambition qui aurait fait de l'ombre à son frère ou qui aurait été une menace.
Oui, c'est ça. À la mort de la reine Marie-Thérèse, épouse de Louis XIV, Louis XIV dira à Philippe « Dieu me l'avait donné comme il fallait ». On peut dire le même aussi à propos de Philippe, parce que Philippe d'Orléans est le frère idéal pour Louis XIV, en effet. Il est très docile. Il est obéissant, il n'a pas de grande ambition et surtout il n'a pas le goût de diriger le royaume. Donc il ne cherche pas des charges politiques, il ne cherche pas par exemple un gouvernement.
Et c'est probablement une des clés de compréhension de ces liens très forts entre eux, parce
oui.
que Philippe ne représente jamais une menace pour le roi.
Non.
Et aussi peut-être parce que leur tempérament se complète. Vous dites
oui.
dans le livre par exemple que Louis XIV est un timide.
Oui, c'est un timide, aussi étrange que cela pourrait paraître, parce qu'un roi qui est toujours en représentation, qui en réalité est un timide, ça peut paraître un peu bizarre. Mais en effet, c'est un timide qu'il préfère le visage qu'il connaît depuis toujours, il n'aime pas les foules, il n'aime pas Paris, il n'aime pas se mêler aux foires, aux marchés. Philippe d'Orléans, au contraire, est très aimé à Paris et très aimé par le peuple de Paris.
Il se montre
Oui, il se montre beaucoup. Philippe d'Orléans, il se montre beaucoup à Paris. Il anime la vie de cour et donc il fait à Paris, il a un peu une fonction d'ambassadeur permanent du roi parce que le roi est enfermé à Versailles. Et Louis XIV déteste Paris. Il ne reviendra presque jamais après la mort de sa mère. Anne d'Autriche meurt au Louvre.
Donc c'est son frère qui l'y représente.
Oui, c'est son frère qui le remplace à Paris et qui lui garde une place dans le cœur des Parisiennes. Voilà, c'est un roi que les Parisiens ne voient presque jamais.
Alors vous dites aussi que Philippe est un bavard impénitent.
Oui, au contraire de son frère. Louis XIV disait en riant que le bavardage de son frère l'avait dégoûté de parler.
Tellement Philippe parlait.
Tellement oui.
Mais il parlait avec tout le monde.
Avec tout le monde, c'est ça. C'est la caractéristique principale de Philippe et de savoir avoir une conversation avec tout le monde, enfin. Il est capable de trouver un point de communication avec le peuple, avec les nobles, avec les princes. Et donc, il est un homme vraiment aimable, affable. L'affabilité, c'est une remarquable qualité de cet homme, oui. Et puis, il y a la Palatine, la deuxième épouse de Philippe d'Orléans, qui nous fait un portrait haut en couleur des différences de caractère entre les deux frères. Le roi, c'était brun, très grand, cendré, très viril.
Et Philippe écrit
qu'il avait les manières d'une femme plutôt que d'un homme. Donc, c'est le parfait opposé, mais qui sont aussi complémentaires.
Deux personnages donc au tempérament radicalement opposé. mais complémentaires. Et d'ailleurs, vous soulignez dans votre ouvrage, Elisabeth Alourgo, que Louis XIV cherchera toute sa vie la compagnie de son frère.
Oui, c'est ça qui m'a frappée. Lorsque j'ai commencé à lire les sources sur Philippe d'Orléans, on est frappé de voir combien de temps ces deux frères passent ensemble, en effet. Pendant toute sa vie, Philippe d'Orléans fait des allers-retours de ses châteaux à la cour. Il tient toujours compagnie au roi, même lorsqu'il est malade, par exemple. Il est toujours là, pas seulement dans les moments de représentation où sa présence est requise, bien sûr, mais dans les menus activités de la vie quotidienne de Louis XIV. Ce lien fraternel avec un roi et son frère dans l'Europe de l'absolutisme est tout à fait exceptionnel.
D'ailleurs, le roi ne cherche pas spécialement les conseils de Philippe. C'est plus sa compagnie.
Sa compagnie, je dirais. Même si on lit ses lettres, on comprend qu'en effet, Louis XIV parlait très volontiers aussi des affaires politiques, affaires religieuses avec Philippe. Il ne cherche pas ses conseils dans la mesure où Louis XIV n'est pas un homme à suivre les conseils. Il aime prendre les décisions seul, mais il a confiance dans son frère et il partage avec lui aussi les affaires politiques. Oui.
C'est quand même un tempérament assez naïf, docile et obéissant, ce Philippe. Est-ce que ça veut dire que c'est quelqu'un qui a une personnalité un peu fade, un peu éteinte, malgré le fait que c'est un bavard ?
Je ne crois pas. Il est très intelligent, mais il peut se montrer en effet très naïf. Je dirais que la plus grande faiblesse de Philippe d'Orléans, en effet, est la facilité avec laquelle il accorde sa confiance aux gens qui pourraient profiter de sa position pour l'entraîner, par exemple, dans les complots. Et Louis XIV connaît très bien cette faiblesse de Philippe. En réalité, il n'a pas peur de Philippe d'Orléans, il n'a pas peur de son frère, des ambitions de son frère, parce qu'il sait que son frère n'a pas de grande ambition, il n'est pas un stratège. Mais il a peur de ce qu'il appelle dans ses mémoires, Louis XIV appelle dans ses mémoires, les brouillons, les semeurs de discorde, les mauvais conseillers qui pourraient l'entraîner dans les complots, sans qu'il ait vraiment la conscience d'être entraîné justement dans des complots. Donc c'est pour cette raison que Louis XIV le tient officiellement à l'écart de la politique. Et donc par exemple, Philippe
d'Orléans... Qu'est-ce que ça veut dire officiellement ?
Officiellement parce qu'il est écarté des fonctions officielles. Il n'a pas de fonctions officielles, de charges officielles à la cour. Il n'est pas, par exemple, gouverneur d'une province. Il était tradition de donner une province à gouverner au fils de France ou au cousin du roi, comme Gaston d'Orléans, justement, était gouverneur de Languedoc. Et puis, il ne participe pas au conseil du roi, au conseil d'anneau, conseil. Mais il participe, par exemple, au conseil de dépêche, qui règle les affaires dans les provinces. Il participe au conseil élargi, convoqué par les rois dans des moments particuliers de crise, d'urgence. Et donc, officiellement, il n'a pas de charge à la cour. Mais en réalité, d'une façon informelle, Louis XIV partage avec lui aussi des secrets politiques. Il parle des affaires politiques, oui.
C'est un homme qui aime beaucoup les cérémonies et qui adore l'étiquette.
Oui, c'est l'éminence grise de l'étiquette de Versailles, oui.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Et qui, c'est lui qui organise et qui met en place tout ce système de ritualisation autour du roi, autour de la figure du roi. Et c'est de ce point de vue-là que Philippe d'Orléans a une grande importance politique en réalité pour le roi, parce que l'étiquette de Versailles, ce rituel
officiel
autour du roi, oui, cette mise en scène autour du roi, il a une dimension politique très forte. Très fort. Ce rituel de mise en scène de la figure du roi a une dimension politique très forte. Et de ce point de vue, donc, Philippe d'Orléans, en effet, a une fonction politique fondamentale parce que c'est lui qui organise cette étiquette et surtout, c'est lui qui gronde, par exemple, les courtisanes lorsqu'ils ne respectent pas l'étiquette. Et les courtisanes aussi lui demandent conseil sur la règle à suivre parfois d'étiquette dans les occasions par exemple de deuil, dans les fêtes. Et donc il est officiellement reconnu comme l'éminence grise de l'étiquette de Versailles et de la cour de Louis XIV.
Et manifestement il aime ça et il est doué pour ça.
Oui, il aime ça. Il aime les cérémonies du pouvoir. Il n'aime pas les pouvoirs, mais il aime les cérémonies du pouvoir, la mise en scène du pouvoir.
C'est un esthète ? Ou c'est plus que ça ?
Non, c'est plus que ça, je crois, parce qu'il a conscience de la fonction politique de cette cérémonie, de ce rituel officiel autour du roi. Oui, c'est pas seulement une question d'esthétisme qu'il aime, la grandeur, ce qu'on appelle la grandeur à l'époque, les belles choses, le luxe, etc. Mais aussi, il a conscience de la fonction politique, par exemple, des fêtes organisées à Versailles. Oui, donc ce n'est pas seulement un esthète, non. Je ne crois pas.
Elisabetta Lurgo, il faut consacrer un chapitre entier aux amours et au mariage de oui. Philippe d'Orléans, duc d'Anjou, donc, qui aime beaucoup la compagnie des femmes et des filles très tôt, mais plutôt pour les habiller,
oui.
pour les vêtir.
Il aime les habiller, les coiffer, oui. Donc le mœur de Philippe, l'homosexualité de Philippe d'Orléans, parce que disons le mot, est encore le grand thème de sa biographie qui intéresse encore beaucoup les lecteurs. Bon, Philippe d'Orléans a sans doute des inclinations féminines. Il aime par exemple se déguiser en femme.
Très tôt.
Tout le monde le sait, oui, très tôt, parce qu'il y a le récit célèbre de l'abbé de Choisy qui raconte comment il recevait monsieur dans son logis déguisé en femme, et on le déguisait en femme. Et il y a eu toute une légende qui s'est construite autour de ces féminilisations de Philippe, parce que très tôt, on crée un peu la légende noire du cardinal Mazarin qui aurait corrompu le Philippe d'Anjou, puis Philippe d'Orléans, puis évité qu'il fasse de l'ombre à son frère, donc il a corrompu sa nature, il a encouragé ses inclinations féminines. Bon, moi, je ne crois pas à tout cela, simplement les sources que nous avons à disposition nous montrent que très tôt, Philippe d'Orléans manifeste ses des inclinations féminines qu'on ne décourage pas, ça c'est certain. Mais il faut aussi dire qu'à la cour de France, beaucoup de gentilshommes, de jeunes hommes, de princes aussi de la famille royale
pratiquent le vice italien.
Oui, les vices italiennes.
C'est comme ça qu'on appelait l'homosexualité
oui,
à la
cour. Ils pratiquent les deux formes d'amour concurremment. Donc on pourrait parler le terme d'un anachronisme. Aussi le terme homosexualité n'existe pas au XVIIe siècle, donc... C'est un anachronisme, évidemment, de parler d'homosexualité, mais on pourrait parler à la cour de France de bisexualité. Par exemple, le chevalier de Lorraine, le grand favori de Philippe d'Orléans, a aussi des maîtresses, il a aussi des enfants naturels, il aurait épousé en secret une de ses cousines. Et Philippe d'Orléans, dans ce cadre, c'est un peu une exception, parce qu'en effet, son intérêt pour les hommes semble exclusif. Il a deux épouses, bien sûr, il s'épouse avec Henriette Anne Stuart et puis Elisabeth Charlotte Bavière, ce sont des mariages politiques, évidemment, décidés par Mazarin, le premier mariage, et par son frère, le deuxième mariage. Oui.
Mais il est très attaché, vous l'avez dit, au chevalier de Lorraine, qui
oui.
sera son
oui,
favori
donc c'est
de très nombreuses années.
Alors, bon, sur le chevalier de Lorraine, c'est très, très difficile d'émettre un jugement, en effet, parce que si on écoute les sources que nous avons à disposition, on l'accuse de tous les maux, de tous les péchés. Il puise largement dans l'argent de Philippe d'Orléans.
Abusant de sa naïveté, comme vous le disiez.
Oui, oui, oui. Il cherche à empoisonner sa femme. Il sème la discorde entre lui et ses deux femmes, etc.
Vous pensez que ça n'est pas vrai ? Ou en tout cas qu'on grossit le trait ?
On a sans doute grossi le trait. Je pense en effet qu'on n'a pas assez d'arguments pour l'affirmer, parce que par exemple, enfin, on ne connaît presque rien de Philippe de Lorraine. Sinon, ce qu'on dit, par exemple, Saint-Simon, qui est le grand ennemi de la famille de Lorraine, donc son témoignage est entaché de partialité.
Il n'en dit pas de bien.
Non, il ne dit pas de bien, parce que les princes de Lorraine qui sont... de la famille de Philippe de Lorraine sont les grands ennemis de Saint-Simon. Donc, et on n'a plus les lettres, par exemple, entre Philippe de Lorraine et Philippe d'Orléans, ont été détruites par Elisabeth Charlotte de Bavière après la mort de son mari. Et on n'a jamais retrouvé de lettres de Philippe d'Orléans à Philippe de Lorraine. Oui, donc on ne connaît presque rien de cette relation. Oui. Et bien sûr, les courtisanes, les mémorialistes accusent Philippe de Lorraine de tout. De tous les péchés, de tout. Mais enfin.
Les historiens ne peuvent pas se prononcer de manière évidente sur cette personnalité.
Il est impossible de se prononcer parce que, faute de sources, on ne peut pas se prononcer, oui.
Ce qui est sûr, c'est qu'ils sont restés proches pendant de très nombreuses années et que Philippe manifestait un immense chagrin lorsque Philippe de Lorraine a été disgracié, qu'il a été éloigné de la cour, etc.
Et je crois que dans cette occasion-là, Louis XIV a sous-évalué les sentiments de son frère pour Philippe de Lorraine. Lors de l'arrestation de Philippe de Lorraine, en effet, je crois de pouvoir dire que c'est la seule occasion dans laquelle Philippe d'Orléans vraiment ose s'opposer à son frère. Et ça démontre quand même l'attachement qu'il avait pour Philippe de Lorraine.
D'ailleurs, il obtiendra gain de cause au bout du compte, parce que Philippe de Lorraine sera réintroduit à la cour.
Oui, sera réintroduit à la cour et il obtiendra aussi la faveur du roi. Donc, il obtiendra toute une série de charges, d'honneur, jusqu'à la fin de sa vie.
Vous l'avez dit donc, Elisabeth Alourgo, l'homosexualité de Philippe d'Orléans est tout à fait notoire, ce qui ne l'empêche pas, à la cour de Louis XIV, étant frère du roi, de se marier.
Il doit se marier, oui, évidemment.
Pourquoi il doit se marier ?
Oui, parce que, bon, c'est pour des raisons politiques, parce que, par exemple, le premier mariage est décidé par Mazarin en Autriche, parce qu'ils veulent lier une alliance avec l'Angleterre. Et donc, on fait épouser la sœur de Charles II d'Angleterre qui vient de récupérer son trône après la Révolution anglaise. Henriette Anne Stuart épouse Philippe d'Orléans pour sceller cette alliance avec l'Angleterre. Oui.
Ce sera un mariage malheureux. Hein.
Un désastre, oui.
Ce
serait un désastre complet. D'après certains historiens, d'après les érudits et les sources que nous avons à disposition, Henriette Anne serait un peu la princesse des contes de fées, non? La malheureuse fille persécutée par son mari. Et le rôle du méchant est traditionnellement attribué à Philippe d'Orléans.
Il faut
beaucoup nuancer parce que, en effet, nous avons à disposition seulement des sources un taché de partialité pour Henriette Anne, parce qu'on a quelques lettres d'Henriette Anne et quelques lettres et mémoires de ses amis, de ses partisans, les lettres de son frère. Donc, on ne peut pas savoir vraiment le rôle de Philippe d'Orléans en tout cela, mais je crois en effet que les responsabilités du désastre du premier mariage sont bien partagées entre les deux époux, en effet. Philippe d'Orléans n'est pas un mari idéal, ne nous méprenons pas, parce que ses relations avec ses favoris n'ont rien de platonique. Donc. Mais enfin, il ne fait rien de pire de ce qu'il voit au quotidien à la cour de France. À la même époque, par exemple, son frère s'organise une véritable famille polygame parce qu'il épouse Marie-Thérèse, deux maîtresses en titre, Madame de Montespan et Mademoiselle de Levallière. Ce qui ne l'empêche pas d'avoir d'autres liaisons avec des filles d'honneur de Marie-Thérèse, avec des filles d'honneur de Madame de Montespan. Mais le problème, c'est qu'avec les mémorialistes, par exemple, c'est que Marie-Thérèse manque de charme. Elle est une femme très fade. Elle inspire au mieux un mélange de mépris et de pitié. Alors qu'Henriette Anne a tous les charmes du monde. Donc les mémorialistes sont charmés par cette Madame malheureuse.
Qu'ils plaignent beaucoup
trop, c'est ça le problème. Elle se plaint à son beau-frère, Louis XIV, elle se plaint à son frère Charles II, de la tyrannie de monsieur, etc. Oui.
Des enfants vont naître hein, quand même de ce mariage.
Oui, quand même. Henriette Anne entame 8 grossesses en 9 années de mariage. Beaucoup de fausses couches. Aussi, il faut dire qu'Henriette Anne est beaucoup imprudente parce qu'elle ne se ménage pas pendant les grossesses. Il fait beaucoup de fausses couches, mais quand même, la première fille d'Henriette-Anne de Philippe d'Orléans sera Marie-Louise, qui sera reine d'Espagne, malheureuse reine d'Espagne. Et puis Anne-Marie d'Orléans, qui sera l'épouse de Victor Amédée, duc de Savoie.
Et puis, il y a donc un deuxième mariage.
Oui,
après le décès en 1670 d'Henriette-Anne. Il n'est pas question que Philippe reste veuf.
Évidemment,
il se remarie très vite, en 71, 1671, cette fois avec une...
Élisabeth Charlotte de Bavière. Oui, Élisabeth Bavière.
Princesse Palatine.
Oui, princesse Palatine et duchesse de Bavière, qui est le parfait opposé d'Henriette-Anne, parce que alors qu'Henriette-Anne était le portrait de la féminité, Élisabeth Charlotte, c'est une homme manqué. Parce qu'elle dit clairement que j'ai toujours regretté d'être femme. Elle s'amuse avec la chasse, elle veut toujours être en tenue de chasse, parce qu'à la chasse, on ne doit pas se parer, mettre tout rouge comme au bal, elle écrit. Et ce sont deux opposés, mari et femme, parce que Philippe d'Orléans, il a des manières, beaucoup, des inclinations beaucoup féminines, alors que sa deuxième épouse
est plutôt masculine.
Non manqué, oui, c'est une masse, oui. Et je crois que c'est cela la raison par laquelle le mariage, enfin, est un succès, parce que
ils sont heureux ensemble,
oui. Et il y a des querelles conjugales en raison des favoris de Philippe, Philippe de Lorraine, etc. Mais en tout cas, ils s'entendent très bien. Et à la fin de sa vie, Élisabeth Charlotte admettra d'avoir aimé Philippe d'Orléans. Elle était amoureuse de lui. Oui.
Et quand il meurt, elle est d'ailleurs
elle est très atteinte. Oui, et elle va cultiver le souvenir de son mari, qui se fera de plus en plus doux pour elle avec le temps. Et donc, elle va oublier les faiblesses de son mari. Et oui, c'est un mariage réussi, assez réussi pour l'époque, pour le standard de l'époque.
Élisabeth Alourgaud, peut-être pour bien comprendre ce qui se joue dans cette époque du XVIIe siècle et puis sous ce règne de Louis XIV, il faut redonner quelques dates. Donc Louis XIV est sacré à Reims en 1654.
Oui, oui.
Philippe d'Orléans...
Et au premier rang parmi les nobles.
La célébration.
Donc, oui, et il a sans doute aimé cette célébration parce qu'il adore les cérémonies. Donc les cérémonies de la grandeur, donc il les adore sans doute. Oui.
Vous avez parlé de Gaston d'Orléans, donc l'oncle de Louis XIV et de Philippe d'Orléans, duc d'Anjou encore à l'époque. Ce Gaston d'Orléans meurt en 1660.
Oui, oui. Et l'apanage de Gaston d'Orléans, puisqu'il n'a pas eu de garçons, d'enfants mâles, mais seulement de filles, passe à Philippe, duc d'Anjou, qui devient duc d'Orléans. Le duché d'Orléans, c'est le plus riche de France. Donc l'apanage de Philippe est considérable. Donc il devient un des hommes les plus riches de France.
Où est-ce qu'il vit?
Oui, alors, avec Henriette-Anne, il va vivre au Palais Royal à Paris, qui lui a été donné par le roi. C'était le palais d'une cardinal Richelieu, qui l'a donné à Louis XIII, et Louis XIV l'a donné à son frère. Et puis, il y a le château de Saint-Cloud, qui est, je dirais, le grand amour de Philippe d'Orléans, parce qu'il est amoureux de ce lieu, et c'est sa résidence principale, oui.
Villers-Cotterêts, c'est
c'est un petit château. Oui, il va faire quelques courts séjours, mais en réalité, bon, c'est un château très petit, et très loin de Paris et de Versailles, c'est en Picardie, donc... C'était le château de Gaston d'Orléans. C'était Gaston d'Orléans qui a fait beaucoup de séjours à Villers-Cotterêts, aussi pour s'éloigner de son frère lors de ses disputes avec Louis XIII.
Alors que Louis XIV et Philippe d'Orléans ont donc une proximité, géographique.
Et oui, parce que Saint-Cloud est tout près de Versailles. Donc, en 3 heures de carrosse, on est à Versailles, on est à Saint-Cloud.
Ce qui est étonnant dans l'histoire et dans le parcours de Philippe d'Orléans, c'est qu'on a souligné à quel point le pouvoir ne l'intéresse pas. À aucun moment, il n'envisage de prendre la place de son frère ou d'intriguer contre lui. Par contre, il s'illustre lors de batailles et des campagnes militaires. Lui qui déteste monter à cheval.
Oui, il déteste monter à cheval et il ne parle jamais de la guerre chez lui. Il ne parle jamais, mais il se comporte très bien à la guerre. Et en 1677, il y a cette grande victoire de Cassel et la gloire de cette victoire contre les Anglo-Hollandais et de Philippe d'Orléans, en effet.
Ça lui revient.
Oui, il lui revient parce que c'est le responsable de cette victoire. Et c'est la dernière bataille, la seule dernière bataille à laquelle il participe parce que son frère ne lui donnera plus de commandement jusqu'à la fin de sa vie.
Pourquoi? Puisqu'il est si doué.
Pourquoi? Ça, c'est une bonne question parce que Louis XIV serait-il jaloux de son frère? Aurait-il écarté de propos Philippe d'Orléans de responsabilité militaire parce qu'il ne lui fasse pas de l'ombre. Nombre des historiens pensent que oui, il était jaloux et il a écarté Philippe de responsabilité militaire. Mais en effet, on n'a pas de véritable argument pour l'affirmer parce que ni Louis XIV ni Philippe d'Orléans ne parlent jamais de cette question. Et en effet, Philippe d'Orléans accompagne toujours le roi lorsque Louis XIV participe aux opérations militaires. En effet, donc, si vous me demandez si je crois qu'en effet Louis XIV inconsciemment était jaloux de son frère, je dirais que c'est possible, mais on n'a pas d'argument, de preuve solide pour l'affirmer.
Qu'on sait, c'est que Philippe d'Orléans est assez courageux. Il ne se contente pas de regarder les batailles, il y participe. Il se mêle aux batailles.
Il se montre indifférent au danger.
Indifférent.
Il se mêle aux batailles. Et donc, peut-être c'est cela aussi qui suggère à Louis XIV d'écarter son frère des batailles, parce qu'il faut toujours se souvenir que lorsque un membre de la famille royale ou le roi lui-même participe à une bataille, il y a toujours le risque de perdre une bataille à la présence du roi. Et une défaite, lorsque un membre de la famille royale participe directement à une bataille, ce serait un coup vraiment terrible pour le prestige surnaturel dont jouit la famille royale, en effet. Et donc, les généraux préfèrent de ne pas risquer d'avoir le roi dans une bataille, parce que son frère...
Ça affaiblirait le pouvoir.
Oui.
En cas
de défaite, c'est une défaite, donc on pourrait se demander, mais enfin, on peut être défait aussi avec le roi, donc ce pouvoir surnaturel du roi et de la famille royale ne marche plus.
Et les guerres et les batailles pendant le règne de Louis XIV, Elisabetta Lourgos, c'est pas ce qui manque.
Non.
La France est en guerre permanente,
c'est,
quasiment,
oui, c'est
non?
C'est une guerre permanente, oui, parce que c'est la politique de Louis XIV, la politique d'agression des puissances étrangères, oui. Donc, l'annexion des territoires à travers,
l'expansion du royaume.
La guerre, oui, l'expansion, oui, donc... On ne manque pas d'occasion de faire de la guerre sous le règne de Louis XIV, en effet.
C'est ce qui donne aussi du prestige à ce royaume de France, mais c'est aussi ce qui va l'affaiblir considérablement.
Eh oui, l'affaiblir considérablement, parce qu'à la fin du règne de Louis XIV, l'état des finances de la France est un désastre. Donc les guerres ont dévasté la France, oui, et ses alliés aussi.
Alors, un tout autre sujet,
oui,
celui de la santé de ces deux hommes. donc Louis XIV, dont on aurait presque tendance à oublier que c'était un homme aussi. Pourtant, son état de santé, alors pour le coup, est très renseigné. Oui, celui de son frère aussi?
Oui, ben pas comme le roi, parce que à propos de Louis XIV, on a le journal de santé de Louis XIV écrit par cette médecin. Donc, on a cette grande source qui nous renseigne sur la santé de Louis XIV. Mais en effet, Philippe d'Orléans semble jouir d'une assez bonne santé. Si l'on exclut un épisode assez grave en 1684, il manque presque de mourir, en effet. Il reste pendant quelques jours entre la vie et la mort. C'est difficile de savoir exactement la maladie. Des maux à la tête très violents, des fièvres très persistantes. Oui, il manque presque de mourir. Et il faut dire que les ambassadeurs et les courtisans sont impressionnés par la conduite de Louis XIV, qui est très inquiète pour la santé de son frère. Il envoie aussi un voyage à Chambord pour être près de Philippe. Et l'ambassadeur de Savoie écrit que le roi l'a toujours assisté. Il ne l'a jamais quitté un moment pendant cette maladie. Et puis on a une lettre de Philippe d'Orléans, parce qu'il doit, après, puis en convalescence, il doit rester alité et puis enfermé au Palais Royal à Paris pendant 2 mois environ. Et puis enfin, il peut rentrer à Fontainebleau, à la cour, en novembre. Et il y a une lettre de Philippe d'Orléans qui décrit d'une manière très touchante sa joie de se revoir avec le roi, de s'embrasser avec le roi. Il dit « La joie que nous avons eue de nous revoir et de nous embrasser n'a pas peu contribué à ma santé, parce qu'on n'a jamais vu de frère s'aimer comme nous faisons. » C'est le grand épisode de maladie de Philippe d'Orléans jusqu'à sa mort, qui est subite en effet, parce qu'il meurt subitement.
Peut-être que ce qu'il garde en bonne santé, c'est qu'il a tendance à refuser les saignées.
Oui, oui. Alors que son frère est passionné de saigner, en effet. Oui, oui, c'est peut-être ça, parce qu'il se méfie des médecins. Donc, oui, en effet, à l'époque, c'était souvent les médecins qui tuaient leurs patients.
C'est ce qu'on dit.
Parce que, oui, oui.
Ils les achevaient.
Oui. Parce qu'en effet, oui, avec les saignées. Alors, oui, en effet, il avait raison. C'est peut-être pour ça qu'au contraire de Louis XIV.
Alors, on ferme la parenthèse pour revenir à ces effusions entre les deux frères et pour dire aussi que c'était une époque où on osait manifester ses émotions.
Oui, on pleurait beaucoup.
On pleure beaucoup,
on manifeste même beaucoup quand on est roi. Émotions. Oui, même quand on est roi. Dans la famille royale, en effet, on manifeste beaucoup, beaucoup les émotions, oui, au sein de la famille royale.
Monsieur roi, aussi.
Oui, monsieur aussi, il pleure beaucoup et, par exemple, on a un billet très touchant et plein d'angoisse écrit par Philippe d'Orléans à sa fille Anne-Marie, duchesse de Savoie, lors de la mort de Marie-Louise d'Orléans, la reine d'Espagne qui avait épousé Charles II d'Espagne.
Sa fille donc.
Oui, sa fille chérie, aussi. Parce que c'était sa fille préférée. Et nous avons un billet écrit par Philippe d'Orléans et après sa mort, il annonce sa mort à Marie d'Orléans et il écrit « Je, hier, l'effroyable nouvelle de la reine, votre sœur, Marie-Louise, je n'ai pensé mourir. Je pleure si fort que je ne peux écrire davantage. » Donc c'est un billet très touchant et plein d'angoisse. Oui, on pleure beaucoup et on manifeste beaucoup ses émotions. Et Philippe d'Orléans est sans doute un homme qui sait manifester son amour, ses émotions. Ses enfants l'adorent.
Et il adore ses enfants.
Oui, il est un père très aimant, beaucoup plus qu'Elisabeth Charlotte. Ne parlons pas d'Henriette Anne, que à la naissance de sa première fille, crie à ses femmes qu'on la jette à la rivière parce qu'elle voudrait un garçon, elle aurait voulu un garçon.
Donc, lui, fille ou garçon, il aime ses enfants et il le leur dit.
Et Philippe aime ses enfants et ses enfants l'adorent aussi. Son fils, par exemple, le futur régent, à la mort de Philippe d'Orléans, est dévasté par la douleur. Oui.
Saint-Cloud est donc le château, le refuge de Philippe d'Orléans, Elisabeth Alourgaud. C'est aussi son chef-d'œuvre, dites-vous, dans le livre. Il y consacre énormément de temps, d'amour.
Et d'argent. Qu'il demande aussi à son frère, parce qu'il faut dire que Philippe d'Orléans et Louis XIV font de leur domaine respectif, donc de leur château respectif, une occasion de se disputer, de rivaliser. Il ne faut pas oublier que la magnifique réception du surintendant des finances Fouquet au château de Vaux-le-Vicomte avait déchaîné la colère jalouse de Louis XIV qui en avait profité pour faire arrêter Fouquet. Sur un plan beaucoup moins tragique, il faut dire que Louis XIV semble s'énerver comme un enfant face à la magnificence des châteaux de Philippe. Et il faut aussi prendre en considération que, alors que Versailles est encore un grand chantier, est encore en construction. Le château de Saint-Cloud est déjà là, dans
achevé.
Toute sa magnificence. Oui, il est achevé. Et Philippe d'Orléans va dépenser beaucoup d'argent dans ce château, qui est le grand amour de sa vie, je crois.
Donc,
oui.
Il ne cesse de l'aménager,
de
l'agrandir.
Oui, oui, encore à la fin de sa vie, en 1699, je crois. Il fait bâtir encore une nouvelle cascade à Saint-Cloud par Hardouin Mansart. Il demande l'argent à son frère pour avancer les travaux. Bon, il y a ces paris entre Louis XIV et Philippe d'Orléans parce que Louis XIV lui donne l'argent pour bâtir cette fontaine, mais il lui fait promettre que si les travaux ne seront pas achevés dans une année, il faudra lui rendre l'argent. Oui. Et le pari tourne mal, en effet, pour le roi, parce que 11 mois plus tard, Philippe d'Orléans l'invite pour lui faire les honneurs de sa nouvelle cascade. Donc, oui.
L'argent
c'est
ne
très
sera
amusant
pas restitué.
Aussi, parce qu'il y a cette rivalité entre Louis XIV et Philippe pour les châteaux. Il faut aussi dire que Philippe d'Orléans est le dernier grand prince qui peut se permettre le luxe d'avoir une cour qui rivalise avec la cour et le palais royal.
On dit que c'était un mini Versailles, ça. Clou.
Oui, c'est un mini Versailles et aussi la majorité de la noblesse le préférait au château de Versailles.
Pourquoi?
Parce que c'était beaucoup plus petit. Et puis, il y a par exemple la tante d'Elisabeth Charlotte de Bavière, Sophie d'Hanovre, qui a visité Saint-Cloud et Versailles et a dit « Je préfère Saint-Cloud parce que je trouve qu'à Versailles, la dépense y a fait plus de merveilles que la nature. » Alors que la position, par exemple, de Saint-Cloud est idéale. Et donc, elle est déjà charmée, par exemple, par le jardin de Saint-Cloud. Oui.
Il bénéficie aussi de legs et de dons, non, Philippe?
Oui, de legs et de dons et surtout de l'héritage de sa cousine Anne-Marie-Louise d'Orléans en 1695.
Une véritable fortune.
Oui, une véritable fortune qui lui tombe entre les mains. Elle le nomme son légataire universel parce qu'Anne-Marie-Louise d'Orléans n'a pas de mari, n'a pas d'enfant. Donc Philippe est son légataire universel. Et, bon, cet héritage, c'est une...
Une aubaine pour lui.
Oui.
Est-ce qu'on peut dire que c'est un mécène? Est-ce qu'il aime l'art? Est-ce qu'il favorise la création artistique?
Oui, il favorise la création artistique. Il ne faut pas oublier que c'est grâce à lui que Molière peut entamer son activité théâtrale.
Il l'introduit à Versailles.
Il l'introduit d'abord au Palais Royal et puis à Versailles. Mais la troupe de Molière continuera à représenter au Palais Royal. Donc Philippe d'Orléans, c'est le premier protecteur de Molière, par exemple. Puis il est un grand collectionneur de tableaux, il a un goût très sûr dans le choix de tableaux et oui, on peut dire que c'est un mécène en effet. Oui.
On dit que, et on sait que Louis XIV aimait beaucoup la danse.
Oui,
Philippe aussi,
il est un danseur expérimenté comme son frère, il aime danser. Même si Elisabeth Charlotte écrit qu'il ne pouvait...
Sa deuxième épouse, donc.
Oui, sa deuxième épouse. Il ne pouvait pas danser comme un homme, mais danser comme une femme parce qu'il portait des talons très hauts. Il était de très petite taille par rapport, par exemple, à son frère. Alors, il avait des talons très hauts et il ne pouvait pas danser comme un homme. Il dansait comme une femme. Je ne sais pas si on doit croire, parce que on ne doit pas toujours croire à Elisabeth Charlotte. Hein. C'est un peu, il faut un peu nuancer cette légende d'Elisabeth Charlotte, si elle a la franchise de la Palatine, les lettres, parce que, bon, c'est une femme qui sait ce qu'elle fait lorsqu'elle écrit ses lettres. Donc, bon, il faut nuancer un peu, hein.
Alors qu'on a souligné la bonne entente globalement qui a régné entre Louis XIV et son frère, donc Philippe d'Orléans, Elisabetta Lourgaud. Il se trouve que la veille de la mort de Philippe, les deux hommes ont une altercation assez virulente, assez violente, ce qui est assez rare.
Oui.
C'était et... à propos de quelque chose d'important ou c'est...
Et oui, c'était à propos de son fils, du fils de Philippe d'Orléans, le duc de Chartres, qui avait épousé la fille légitime, une des filles légitimées de Louis XIV, et dont la conduite ne convenait pas à Louis XIV parce qu'il avait un cortège de maîtresses, etc. Louis XIV oublie vers la fin de sa vie que dans sa jeunesse, il avait couru les femmes. Et donc, il se pose un peu un maître de morale.
Entre-temps, il a épousé Madame de Maintenon.
Oui, il a épousé en secret Madame de Maintenon. Et oui, il y aura eu cette grande dispute entre les deux frères, juste la veille de la mort de Philippe d'Orléans. Mais dans mon livre, j'ai un peu mis en doute la réalité de cette dispute, parce qu'on connaît cette dispute seulement par une source, à travers la mémoire de Saint-Simon, qui écrit 40 années après les faits. Aucune autre source mentionne cet épisode, en effet. Donc, je ne donnerai pas trop d'importance à cet épisode, oui.
Le fait est que c'est donc en 1701, oui. Le 9 juin, que oui. Philippe meurt. On pense aujourd'hui qu'il a été victime d'une attaque cérébrale,
d'une rupture d'anévrisme. À l'époque, on parle d'apoplexie, que c'était une morte subite. Oui, je crois que c'était une hémorragie cérébrale.
Les semaines, ou peut-être même les mois qui ont précédé sa mort, alors que lui était d'un tempérament très expansif.
On le voit moins porté à la joie, au divertissement. Et aussi Louis XIV lui conseille beaucoup de fois de se faire saigner, parce que Louis XIV, c'est un grand admirateur des saignées. Et Philippe d'Orléans refuse. On dit dans certaines sources qu'il aurait eu des pressentiments de sa mort.
Il était sombre,
les derniers temps. Il était d'humeur plus sombre, en effet.
Comment réagit Louis XIV à la mort de son frère?
Et il est dévasté. Il pleure beaucoup. On l'entend répéter plusieurs fois que je ne saurais jamais m'accoutumer à l'idée que je ne verrai jamais plus mon frère. Et Elisabeth Charlotte écrit que moi, après la mort de Philippe d'Orléans, toutes les fois que le roi parle de monsieur, il s'attendrit chaque fois. Donc oui, il est très affecté par cette mort. Parce qu'enfin, c'était un frère avec lequel il a partagé le chagrin et le bonheur de toute sa vie. Madame de Maintenon, qui n'aimait pas Philippe d'Orléans, hein, évidemment, parce que Madame de Maintenon était très dévote. Évidemment, elle ne peut pas aimer Philippe d'Orléans, mais elle écrit que le roi aimait monsieur, il en était aimé, il ne s'était jamais quitté. Pour Louis XIV, c'est une perte qu'il a faite beaucoup.
Et c'est la fin d'une époque.
Oui.
Vous écrivez « La mort de monsieur sonne la fin des heures de Saint-Cloud, du palais royal et même de Versailles ».
Et oui, parce que Saint-Simon, qui n'aimait pas Louis-Philippe d'Orléans, hein, il n'est pas doux avec lui, hein, mais il reconnaît que Philippe d'Orléans, c'était lui qui jetait les amusements et l'agrément de la cour. Et lorsqu'il quittait la cour, tout semblait sans vie et sans action. Et en effet, oui, parce que Philippe d'Orléans, c'était l'âme de la vie de la cour de Versailles. Je crois aussi qu'on a un peu tendance à sous-évaluer l'influence de Philippe d'Orléans dans la vie privée du roi. Et en effet, cette perte va affecter beaucoup aussi la vie familiale du roi, parce que Louis XIV ne semble plus avoir la force de garder cette intimité de famille qu'il avait toujours réussi à garder avec l'aide de Philippe d'Orléans. Et après sa mort, quelque chose change dans la famille de Louis XIV, en effet.
Sans compter les deuils successifs qu'il aura à vivre.
Sans compter les deuils successifs, parce qu'à partir de la mort du dauphin en 1711, il y a toute cette série de deuils à la cour, dans la famille royale, la duchesse de Bourgogne, le duc de Bourgogne, leur enfant, le duc de Berry.
Donc Louis XIV perd tous ses enfants.
Oui, elle perd tous ses enfants, ses petits-enfants. Il lui reste seulement le duc de Bretagne qui sera Louis XV et qui est son arrière-petit-fils. Et puis, il lui reste comme régent Philippe d'Orléans, le fils de Philippe de Chartres, qui est devenu Philippe d'Orléans à la mort de son père. Et puis, il lui reste ses enfants légitimés, le duc de Maine et le comte de Toulouse. Mais en effet, la famille royale est affectée par une série de deuils vraiment incroyable, en effet. C'est une tragédie, de famille. Et je crois que pour un homme comme Louis XIV, qui était très attaché à sa famille, ça a été vraiment une tragédie, un drame qui, à mon avis, a été un peu sous-évalué par les historiens. Parce que Louis XIV vit constamment en représentation, donc il veut se montrer toujours sûr de soi, il contrôle toujours ses émotions, mais en effet, cette série de deuils de famille a dû l'affecter vraiment, vraiment
beaucoup. Elle marque vraiment cette fin de règne, oui. Ces dernières
années. Elle marque sa fin de règne et ses actions à la fin de règne.
Merci beaucoup, Elisabetta Lourgaud, d'être venue donc nous parler de Philippe d'Orléans, frère de Louis XIV. C'est donc aussi le titre du livre que vous lui consacrez, un livre paru chez Perrin dans la collection Biographie. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'Université de Savoie, spécialiste de l'histoire religieuse et des pratiques religieuses entre la France et l'Italie et entre la France et l'État de Savoie. Encore merci. Et merci à Christophe Morag qui était à la technique.